suis habité par trois convictions. C'est important. Il ne faut pas en avoir trop, mais au moins trois convictions. Ma première conviction qui m'habite, c'est on devient prêtre, on le devient qu'en étant prêtre. C'est important, moi. Je n'ai rien contre le séminaire, Monseigneur, rassurez-vous. D'autant plus, je fais partie des formateurs du séminaire de Paris, donc je ne peux pas être contre. Mais on devient prêtre qu'en étant prêtre. Première conviction, ça va, vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Deuxième conviction, on n'est pas prêtre tout seul. Et la fraternité sacerdotale est extrêmement importante. C'est ma deuxième conviction que j'ai découvert et qui m'habite. Bon, je vous dirai pourquoi c'est important. Troisième conviction, un prêtre, eh ben, faut qu'il ait des pieds. Il faut qu'il soit. Bon, des grosses têtes, j'en connais pas mal, mais un prêtre, c'est un pasteur, selon le cœur de Dieu, il faut qu'il ait des pieds. Donc il est sur un terrain, il connaît le terrain, il est inséré dans un terrain, dans une histoire, dans un peuple, et voilà. Pourquoi ces trois convictions m'habitent? Pourquoi? Quand j'étais jeune prêtre, ma première tentation, j'ai eu des tentations. C'est ça qui, peut-être, qui m'a amené. Je ne savais pas très bien lire le nom, dire prier le Notre Père, peut-être. Mais ma première tentation, c'était de devenir travailleur social. Donc j'ai choisi d'être prêtre. J'ai découvert, en étant envoyé en mission dans ma première nomination, on est marqué. C'est pour ça, c'est pas au séminaire que j'ai été prêtre. C'est vraiment par mon ministère que je suis devenu prêtre et que j'ai compris ce que c'était. Mais j'ai eu la tentation d'être un travailleur social, puisque ma première année de ministère, je me suis fait casser la figure deux fois dans la rue par des bandes avec qui je travaillais. Donc j'ai déjà été près du ciel parce que j'ai vu 36 chandelles plusieurs fois. Bon. Et donc j'ai pris conscience, justement, au bout d'un certain nombre de mois de données presque, l'importance de dire qu'est-ce qui fait que je suis prêtre. Donc l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la prière. Voilà, je ne suis pas un travailleur social, même si j'ai donné beaucoup dans les clubs de prévention, où je suis plus tard dans le mouvement du nez, mais l'importance de la prière et de la parole de Dieu. Voilà ma première conviction. Deuxième conviction, la fraternité. Fraternité sacerdotale, on peut faire des grosses théories qui est le sens du presbytérium, mais je suis enraciné, moi je suis du diocèse de Paris, c'est vrai. Et c'est très important pour moi d'appartenir à une église particulière. Mais pourquoi cette fraternité est-elle importante? Ben, je vais donner un exemple tout simple. On n'a pas le temps de faire de la théologie trop longtemps, mais il l'a dit. Regardez, dans mon métier, je suis souvent entouré d'une gente féminine. La casse-barre aujourd'hui. Hein? Comment j'ai pu réfléchir sur ce que ça voulait dire la chasteté, j'avais besoin de le partager avec des gens qui étaient engagés comme moi dans une recherche de fidélité à Jésus-Christ, chaste, époux et pasteur. Et donc, la fraternité sacerdotale, pour moi, est un élément important. Je n'ai pas besoin d'un institut pour rencontrer des laïcs. Je n'en ai jamais eu besoin. J'étais très engagé dans la vie avec des gens que j'aime et que je continue à aimer, et que la preuve, c'est que, vous voyez, je commence à avoir moins d'appels à faire des mariages, maintenant ça commence à être des enterrements. Bon, c'est là où on s'aperçoit qu'on vieillit. Quoi. Il y a deux temps où on s'aperçoit qu'on vieillit, c'est quand on marie les enfants de ceux qu'on a déjà mariés, c'était ma première étape de vieillissement, et maintenant je m'aperçois que, bon là j'ai marié une nénette que j'ai baptisée il y a un certain nombre d'années, mais je m'aperçois qu'on me demande pour des enterrements de gens qui finalement j'étais une référence de leur vie chrétienne ou de leur vie tout court de lien avec l'Église, hélas. Bon. Donc la fraternité sacerdotale était pour moi, c'était pas en opposition avec une rencontre de laïcs, parce que j'étais dans des mouvements d'apostolat, donc je sais ce que c'est de travailler avec des laïcs, et j'ai toujours travaillé avec des laïcs, même avec des femmes, j'aurais pas peur forcément des femmes, rassurez-vous, mais le besoin de cette fraternité sacerdotale pour regarder un petit peu ma vie, comment vivre ma chasteté, comment vivre ma pauvreté, comment vivre une certaine fidélité à Jésus-Christ avec des frères et des confrères qui vivent la même expérience que moi. Troisième chose, le terrain. On est très marqué par le terrain. Et d'où l'importance des nominations, Monseigneur, c'est très important, et la première encore plus, mais c'est vrai pour les autres aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai toujours été heureux dans tous les ministères que l'on m'a confiés, donc je n'ai pas à me plaindre là. Mais c'est vrai que le terrain, c'est important. On est du siècle, nous ne sommes pas des druides, je n'étais pas un druide, je n'étais pas un intermédiaire entre le sacré et le profane. Je me retrouve dans ce que j'ai entendu ce matin, je suis un prêtre de Jésus-Christ, un pasteur selon le cœur de Dieu, j'espère, de celle de l'être, donc je ne suis pas un druide pour faire je ne sais pas quoi, ni un gourou, ni je ne sais pas quoi. Et donc, voilà. Donc ces trois conditions qui m'ont invité, il a fallu les déployer. Bon. Quand je suis quitté du séminaire, j'avais des bons frères prêtres, j'avais des bons collègues et des bons copains. Donc on a fait une équipe de partage, pour pas être seul, et chacun a pris, effectivement, en fonction de leur première nomination, on a pris quand même des orientations un peu pastorales, un peu différentes, selon le lieu où on était, selon le terrain dans lequel on était. Il y en a même un qui est parti au milieu militaire dans la marine, donc c'était quand même un peu différent de ce que je vivais, moi, dans le 18e arrondissement de Paris. Mais voilà, on avait une amitié forte à cause des années de séminaire, vraiment très forte et très unie. Malheureusement, il y a certains qui sont morts, dont un de mes frères, c'est Hervé Renaudin, était très lié avec Hervé depuis longtemps, qui a été évêque trop peu de temps d'ailleurs, puisqu'il en est mort. Mais voilà, on avait donc une équipe de fraternelle, de prêtres, où on se retrouvait par amitié, on se retrouvait par plaisir, on se retrouvait par prier ensemble, partager du bon temps ensemble et prier ensemble. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu le sentiment que nous ne nous provoquions pas assez. Chacun avait un petit peu ses repères, et ce n'était plus un lieu de ressourcement, c'était un comité d'admiration réciproque. Ça arrive, ça. Il y en a beaucoup de gens qui font ça. Des comités d'admiration réciproque. Alors, ça m'a un peu... j'ai été un peu gêné de fait de dire que on a toujours envie de se retrouver par amitié pour prendre une bonne bouffe et dire du mal de nos évêques s'il le faut, mais c'est pas... Eh ben, mesdames...
Les retardataires...
Bon, vous savez, mes sermons, quand ils arrivent en retard, ils sont gueulés, hein, mais...
J'ai seulement 4
heures. Bon, ils en réclament un peu, parce que ça permet de rire un peu, ça les détend des trucs que j'ai dit qui étaient un peu...
On a même pas fait la
première. Voilà. Donc, cette équipe de frères prêtres de même année, au bout d'un certain temps, était un lieu d'amitié... partageait un repas très sympathique, mais n'avait plus cette... je cherchais un petit peu un lieu, justement, de provocation, de vérification. Et du coup, un peu par hasard, j'ai retrouvé Cornoum. Je connaissais un peu la revue, j'avais un jour au Folleté. Si j'avais le temps, mais j'ai pas le temps, je pourrais vous dire qu'historiquement, j'ai un lien très grand avec Cornoum et qui est amusant, mais ça serait plutôt dans la soirée pour les anecdotes. Mais profondément, j'ai donc frappé à la porte de Cornoum pour leur, et puis là, j'ai rejoint une équipe où j'ai vu des belles figures sacerdotales qui m'ont impressionné au sens vrai du terme, des frères qui vivaient une fidélité au Christ, pasteur, et qui m'apportait ce que j'ai. Et ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été la retraite que Cornoum proposait. Ce temps fort de retraite, la retraite fondamentale que j'ai vécue, a été un moment justement où là, moi je ne suis pas habitué au tourisme religieux, aller voir frapper à toutes les portes. La boutique était de qualité, la nourriture était saine, et bien je suis resté dans cette baraque-là. J'aime pas les gens qui se baladent trop. Hein, ça, les girovagues. Bon, alors, je suis resté à Cornoum. J'ai eu du mal à m'engager du fait de toutes les tractations compliquées qu'a vécu. Ça n'a pas été si simple, l'histoire des instituts séculiers, entre le sacerdoce, la place du laïcat. Parce que moi, j'étais très intéressé par tout ça, mais ça me cassait les pieds. En fait, ce que je cherchais, ce n'était pas du tout une institution, c'était un lieu de ressourcement, de provocation pour m'aider à être prêtre. et à vivre mon sacerdoce ministériel, mon ministère sacerdotal. Voilà. Et donc, j'ai pris du temps, mais j'ai continué fidèlement, parce que dans ma famille, on m'a appris la fidélité. Hein, quand on est un garagiste, on aura toujours le même garage pendant 60 ans. Hein, c'était ça, donc, j'étais très fidèle. Et petit à petit, au fur et à mesure que les problèmes juridiques des instituts séculiers sacerdotaux et puis de tous les instituts s'est un peu calmé, là, j'ai pu m'engager pleinement. J'ai eu la chance de m'engager officiellement au martyrium, et comme j'aime bien l'histoire, le martyrium, c'est là où Ignace a fait ses premiers engagements sur la butte Montmartre, donc je suis fier de votre engagement. Alors, je dis ça, bon, j'arrête là parce qu'on est limité, on a d'autres choses à faire. Ce que je veux dire, la difficulté que je ressens, la question que ça me pose, c'est que pour tout prêtre, pour tout jeune prêtre, puisque j'ai quand même été... j'ai été déboureur de jeunes lévites pendant pas mal d'années. C'est-à-dire que j'ai eu des jeunes prêtres. J'ai été curé avec des jeunes prêtres. Bon, maintenant ils sont curés, mais jeunes prêtres. Il y en a même qui sont chanoines titulaires. Bon, je suis très jaloux parce que moi aussi. Mais ce qui m'impressionne, c'est leur difficulté à rentrer à choisir ce chemin que j'ai pris. Je n'ai jamais fait d'adepte. Je ne suis vraiment pas un maître. Alors pourquoi? Je comprends l'expérience, c'est que pour moi, l'entrée dans la famille du Cœur Unum, enfin dans l'Institut des prêtres du Cœur de Jésus, n'a pas été un ajout à ma vie. Ça a été un atout et non pas un ajout. Et la question que se posent beaucoup de prêtres qui ne rentrent pas dans des associations sacerdotales, c'est qu'ils considèrent que l'ordination suffit et qu'ils n'ont pas la consécration serait un truc en plus. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne l'ai pas vécu du tout comme un truc en plus, je l'ai vécu comme un moyen qui rentre dans cette aspiration à être j'ose dire un bon prêtre, je ne sais pas si je suis un bon prêtre, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment un prêtre disciple qui m'a permis de faire un certain nombre de choix aussi dans ma vie sacerdotale et de disponibilité à un certain nombre de missions que je ne savais pas. Bon, ben c'est quand même à cause de mon engagement dans l'Institut des Bessiers. Tout ça, et ça n'a jamais été... Vous savez, moi je suis à Périgord, quand je prends le métro dans une ligne, il est évident que je vais passer dans d'autres stations. Ben pour moi, la consécration sacerdotale était sur cette ligne de métro que j'avais prise d'essayer de suivre Jésus-Christ en étant pasteur selon le cœur de Dieu, pour prendre cette belle expression d'un texte de nos papes. Eh bien, voilà, pour moi, ce n'est pas un ajout, c'est un atout qui m'a permis de vérifier un petit peu ma vie, qui m'a permis d'être provoqué à une certaine exigence dans ma vie, qui m'a permis... ce choix d'être prêtre de Jésus-Christ, toujours aujourd'hui, et ce qui me rend particulièrement heureux, puisque j'ai la chance de maintenant aider des jeunes à le devenir également. Je ne sais pas si j'aurai des petits, certains ils le savent, puisque en plus je fais un truc sur la vie spirituelle, donc je suis obligé d'en parler un peu, des choses que je suis plus à l'aise que tout le sujet. Enfin voilà, pour moi c'est ça, cette consécration, ce n'est pas un truc en plus, c'est à l'intérieur de cet appel que j'ai reçu en étant prêtre pour vérifier, consolider, renforcer, étalonner et me rendre heureux. Et je retrouve cette fraternité sacerdotale dans l'Institut, je retrouve, qui ne m'éloigne absolument pas de la fraternité sacerdotale du diocésaine, au contraire, pas du tout. Donc pour moi, il n'y a jamais une opposition entre diocèse et institut séculier. Bon. Puisque j'ai été responsable de la FMPV pendant plus d'une dizaine d'années, donc c'était un lieu de fraternité aussi qu'on a constitué. Bon, voilà. Bon, je crois que ça suffit, j'ai eu mon temps, non? Comment?
Si on peut s'arrêter, c'est bien, mais...
Oui,
je dis l'essentiel. Si l'essentiel... Merci. Alors, maintenant, c'est au tour de Vincent.
Alors le Père Jean-François dit à l'intérieur de, je crois que ça sera un peu si, en très bref le résumé de ce que je vais dire, à l'intérieur de, on va essayer de voir ça. Au départ de ma réflexion, il y a une parole de Paul VI, de 72, que vous connaissez tous, toutes très bien. Votre condition existentielle et sociologique devient votre réalité théologique et votre voie pour réaliser le salut. Alors moi, cette phrase-là, elle m'a toujours un peu interpellé. Peut-être que pour vous, elle n'a aucun mystère, mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière, finalement? Et voilà, je m'étais proposé, avec Marilyn, enfin, au bureau, de creuser un peu cette question-là. D'autant plus qu'en lisant les textes, on voit que cette expression « réalité théologique », elle est utilisée par le magistère constamment pour nous désigner.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Paul VI l'emploie plusieurs fois, dès 70, la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers en 83, Jean-Paul II, qui l'utilise notamment dans Christi Fideles Laici, donc il ne s'adresse pas spécialement aux instituts séculiers, mais aux laïcs, et il utilise cette expression, réalité théologique, pour parler de la sécularité. On la retrouve dans les paroles de Benoît XVI, du pape François, du cardinal Parolin, du cardinal Bras de Avis dernièrement, encore dans la dernière lettre de cet été pour tous les évêques du monde. Alors voilà, on peut essayer de creuser un peu plus. Alors déjà ce matin, eh bien, on a commencé. Une première clé de compréhension de la sécularité comme réalité théologique a été développée par Nadège. Et elle consiste à établir un parallèle entre les intuitions du Concile Vatican II et celles qui ont présidé, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, à la création des instituts séculiers. Et nous l'avons entendu, les liens entre les apports du Concile et les instituts séculiers sont constamment rappelés par Paul VI et par le magistère à sa suite. Vous êtes une manifestation particulièrement concrète et efficace de ce que l'Église veut faire pour construire le monde tel qu'il est écrit et souhaité par Gaudium et Spes, par exemple. Ou l'Assemblée plénière de la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers. Du Concile Vatican II, les instituts séculiers ont reçu des éléments leur permettant d'approfondir leur réalité théologique. Voilà, donc tout ça, on l'a vu. Et donc, je me suis proposé, plutôt même Nadège m'a suggéré, de suivre un autre fil conducteur. Pardon, Nadège. Pourquoi je dis Nadège? Marilyn. Excusez-moi, c'est le stress. C'est la communion dans les instituts séculiers. Et donc, je vous propose qu'on suive un autre fil conducteur. En effet, en même temps que le magistère parle de réalité théologique, il utilise presque toujours un autre mot. Et par exemple, Paul VI, en 72, pour le 25e anniversaire de Provida Mater, nous dit ceci. Votre sécularité vous pousse à accentuer spécialement la relation avec le monde. Cette relation ne représente pas seulement une condition sociologique, un fait extérieur, mais bien une attitude. Être présent dans le monde, se savoir responsable pour le servir, pour le configurer selon Dieu, en un ordre plus juste et plus humain, pour le sanctifier du dedans. Et je retiens ce mot « attitude ». On va le voir apparaître souvent, vous allez voir. L'Assemblée plénière de la Congrégation, en 83. La sécularité consiste à indiquer soit une condition sociologique, le fait de rester dans le monde, soit une attitude d'engagement apostolique. Attentive aux valeurs des réalités terrestres et en partant d'elles dans le but de les pénétrer d'esprit évangélique. Et encore, le pape François, en 2014, quand il s'adresse aux instituts séculiers italiens, le fait que vous demeuriez dans le monde n'est pas simplement une condition sociologique, mais une réalité théologale, voyons, on retrouve l'expression, théologique, théologale, c'est le même mot latin, qui vous appelle à une attitude consciente, attentive, qui sache percevoir, voir et toucher la chair du frère. Et donc, vous voyez bien, la sécularité, c'est une réalité théologique qui peut être abordée selon deux angles. Soit vue du côté du monde, de son autonomie légitime, de notre mission dans le monde, comme membre d'instituts séculiers, qu'est-ce qu'on y fait, pour conduire ce monde à son achèvement, pour poursuivre l'œuvre de la création. Vous voyez tout ce qu'a dit Marie, excusez-moi, Nadège ce matin. Mais aussi, on peut le voir du côté du membre, mais d'une façon plus ontologique, plus dans l'être, de l'intérieur. Oui, c'est pour ça que j'aimais l'expression du père Jean-François. Notre attitude dans le monde est ce qui fonde cette attitude, quelles que soient nos activités, quelles que soient nos insertions professionnelles et sociales. Qu'est-ce qui touche l'être ? Et l'attitude des membres d'instituts séculiers révèle ce qu'ils portent en eux. Notre présence dans le monde, nos activités, prennent sens dans des réalités intérieures qui les sous-tendent. Et on l'a aussi perçu, ça, dans la synthèse qu'a faite Marilyn, cette fois je ne me trompe pas, ce matin, dans les témoignages, dans la synthèse des témoignages. On voit bien qu'il y a une réalité extérieure, mais qui s'enracine dans une réalité intérieure. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime Primo Felicitaire dès 1948. On lit au numéro 6, un numéro que vous connaissez très très bien, j'imagine. « La vie tout entière des membres des instituts séculiers, consacrés à Dieu par le fait de professer la perfection, doit être convertie en apostolat. » Ça, on le connaît, on le cite par cœur, on l'écrit partout. Mais est-ce qu'on a été bien attentif à ce qui suit ? Je vous lis la fin de la phrase, on verra le milieu tout à l'heure. « Cet apostolat révèle l'esprit intérieur qui l'anime, autant qu'il le nourrit et le renouvelle sans cesse. Si toute notre vie est apostolat, celui-ci est animé par un esprit intérieur. Et l'apostolat, au sens très large, tel qu'on le définit donc pour les instituts séculiers, révèle cet esprit intérieur. Mais encore, cet apostolat, il nourrit cet esprit intérieur. Il n'est pas seulement vers l'extérieur, oui, c'est dans les deux sens. On retrouve un équilibre, une synthèse à faire là. Et l'apostolat renouvelle cet esprit intérieur. Finalement, je me suis dit, on pourrait dire, comme saint Paul au sujet de la charité, peut-être que j'exagère un peu, mais enfin vous me direz, que sans cet esprit intérieur, nous ne sommes qu'airain qui résonne, cymbales qui retentissent. Sans lui, notre présence dans le monde, ben oui, ce n'est plus qu'une réalité sociologique. Alors je prends une image. Quand l'hiver, j'entre dans une pièce où il fait une douce chaleur, je ne prête pas attention au radiateur qui est là, qui fait son travail. C'est peut-être un gros radiateur accroché au mur, c'est peut-être un petit radiateur à roulettes, c'est peut-être un grand radiateur mural pour faire sécher les serviettes, peu importe, je m'en occupe pas trop, mais il est là, il chauffe, il crée une atmosphère. Et si le radiateur ne fonctionne pas, s'il n'y a pas d'eau chaude qui passe dans le radiateur ou d'électricité dans la résistance, eh bien c'est là que je vais m'apercevoir qu'il manque quelque chose dans la pièce et que tout ce que je vais faire dans cette pièce, ça va être un peu différent, plus difficile, il manquera cette atmosphère. Et bien là, je pense à ce que nous disait Marie Pilla, la cofondatrice de l'Institut Notre-Dame de Vie, elle disait « Soyez des radiateurs d'amour ». Quoi que vous fassiez, que vous soyez ingénieur, prêtre, séculier, assistante sociale, peu importe, quel que soit retraité dans une maison de retraite, sur votre lit d'hôpital, soyez des radiateurs d'amour. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose dans le radiateur qui passe, quoi. Notre vocation a du sens si nous sommes habités, si nous rayonnons l'amour de Dieu qui nous comble. Et alors, je vous propose maintenant, brièvement, d'essayer de regarder ce qui constitue cet esprit intérieur, qui fait que notre sécularité n'est pas qu'une condition sociologique existentielle, mais bien une authentique réalité théologique. Et j'ai discerné trois choses qui sont un peu des évidences, mais les évidences sont toujours bonnes à réentendre, et elles nous font sans doute parfois, souvent du bien d'entendre les évidences. La puissance des vertus théologales. Le prophétisme des conseils évangéliques, la force des béatitudes. Ça, c'est ce qui circule dans le radiateur pour qu'il chauffe et qu'on soit des radiateurs d'amour. Pardon ? Alors, je vais le redire parce que c'est les trois points de mon topo. Le premier point, c'est la puissance des vertus théologales. Brièvement, je dirais, le prophétisme des conseils évangéliques. Et le troisième point, la force des béatitudes. Alors, je reviens au numéro 6 de Primo Felicitaire. Le début que j'ai déjà lu, la vie tout entière des membres des instituts séculiers consacrés à Dieu par le fait de professer la perfection doit être convertie en apostolat. La partie que j'ai pas encore lue. Apostolat qui, inspiré par la pureté d'intention, l'union intime avec Dieu, une courageuse abnégation et un généreux oubli de soi-même, doit être exercé constamment et saintement, et la suite que je vous ai déjà lue, de telle sorte qu'il révèle l'esprit intérieur qui l'anime, autant qu'il le nourrit et le renouvelle sans cesse. Donc Primo Felicitaire nous dit bien que cet esprit intérieur, il consiste, on pourrait dire d'une part, pureté d'intention et union intime avec Dieu, d'autre part, courageuse abnégation et généreux oubli de soi. Je pense que cette phrase, elle est assez merveilleuse quand on la prend dans son ensemble, sans trop la découper. En 2007, Mgr Jean-Luc Brunin, au congrès de la CNIS, citait le père Coffi. Bon, je ne me souviens pas qui est le père Coffi, mais peut-être que les plus anciens. Mgr Coffi, enfin, je sais pas. Et donc, il disait, au sujet de l'Église, « L'Église, cette part de l'humanité qui ne vit pas à part, qui ne vit pas une autre vie, mais qui est appelée à vivre autrement la vie ordinaire de tous. » Vivre autrement la vie ordinaire de tous. Et ce qui qualifie cet autrement, c'est la vie théologale. Et je me suis dit, il nous revient, à nous, membres d'instituts séculiers, de rendre notre vie théologale. Et j'ai pensé à ce dialogue de Jésus en Jean 6, quand les apôtres demandent à Jésus, mais que nous faut-il faire pour travailler à l'œuvre de Dieu ? Vous vous souvenez de la réponse ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et c'est aussi ce qu'exprimait le cardinal Pironio en 1979, c'était au congrès latino-américain des instituts séculiers. Il est nécessaire de vivre dans le monde une existence théologale claire et inébranlable. Et ensuite, il a une formule limpide. Vivre normalement le surnaturel. Merveilleux ça. Vivre normalement le surnaturel, deux points. Respirer dans la foi, marcher en bâtissant dans l'espérance, changer le monde en vivant la folie de l'amour. Tout est dit. Vivre dans la foi. Là, je cite Jean-Paul II aux instituts séculiers en 80. Il y a donc un engagement à promouvoir les réalités de l'ordre temporel. Et il y a un engagement à faire intervenir les valeurs de la foi, qui doivent s'unir et s'intégrer harmonieusement à votre vie, en constituant son orientation de fond et sa constante inspiration. Engagement dans la société, vie de foi sont indissociables. Pourquoi ? Parce que cette foi, elle nous fait toucher Dieu, elle nous fait entrer en relation avec Dieu. C'est ni nos sens, ni notre intelligence qui nous font entrer en relation avec Dieu. Notre intelligence atteint l'idée de Dieu, mais la foi me fait pénétrer dans le mystère de Dieu. Pour vivre en séculier consacré, dans le monde, nous devons être, entre guillemets, accrochés à Dieu, par la foi.
Ah, ça c'est une parole de Père Marie-Eugène.
Eh oui, c'est une petite parole du Père Marie-Eugène, il prend cette image-là, souvent il dit... Accrochés à Dieu, soyez accrochés à Dieu. C'est une image, mais ça dit bien ce que ça veut dire. La foi nous permet de voir le monde autrement, de voir le monde avec le regard de Dieu. J'ai cru comprendre que c'était le thème dans la région parisienne pour les échanges des inter-IS. C'est magnifique, vous voyez. Regarder le monde avec le regard de Dieu. Si je peux voir les personnes avec les regards de Dieu, je découvrirai la dignité de chaque être humain. Quelle que soit sa vie, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses blessures et ses coups et ses péchés, peu importe, je découvrirai sa dignité telle que Dieu la voit. Donc vivre dans la foi, marcher en bâtissant dans l'espérance. Là, je cite Mgr Carballo en juillet 2017, vous voyez, c'est tout récent. Le Christ est la réalité ultime qui illumine toutes les réalités et toutes les relations. Ancré dans la foi dans le Christ mort et ressuscité, le consacré séculier est appelé à être un prophète d'espérance, en l'irradiant et alors en la rendant contagieuse. Tel est le visage que veut le pape François pour l'Église. En cela, les instituts séculiers doivent être en première ligne. En première ligne pour être des prophètes d'espérance. Moi, je me suis souvent dit, mais peut-être vous aussi, que finalement, est-ce que ce n'est pas ce dont le monde d'aujourd'hui a le plus besoin ? Qu'on rencontre des gens au travail, à la maison, un peu partout dans la rue. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est un idéal, en fait. C'est un idéal et une espérance qui fait avancer vers cet idéal. Et puis, cette espérance, elle a une puissance très forte aussi pour nous permettre de mettre en perspective les événements de la vie. Ben oui, tel accident, telle situation, tel coup dur, c'est pas la fin du monde. Oui. Pourquoi je peux dire que c'est pas la fin du monde et que, à la différence peut-être de mon voisin, on perçoit des gens qui sont... Voilà, après ça dépend des tempéraments bien sûr, mais... oui. L'espérance nous permet de voir plus loin, de rebondir, en étant accroché au Christ, et bien de donner sens, de dépasser. L'espérance, c'est la vertu de marche. Et puis, changer le monde en vivant la folie de l'amour. Là, c'est le cardinal Parolin pour l'Assemblée Générale de la CMIS en 2016. Vous êtes appelés dans le Christ à être des signes et des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Signe visible d'un amour invisible qui envahit tout et veut tout racheter. Origine et accomplissement ultime du monde qui ramènera toute chose à la communion trinitaire. La foi va toucher Dieu, l'espérance va nous aider à marcher vers Dieu et à entraîner les autres vers lui. Et la charité, c'est celle qui va nous unir à Dieu. Un peu comme la goutte d'eau, la charité qui est de la même nature de Dieu, qui est comme Dieu. Comme la goutte d'eau est de la même nature que l'océan. Il y a une distance infinie entre les deux, mais c'est la même chose. La charité qui m'habite est de la même nature que Dieu, elle m'unit à Dieu. Le cardinal Parolin poursuit. En résumé, nous pouvons dire qu'il est particulièrement urgent de porter toute notre attention à la vie de prière. Être des femmes et des hommes de prière, d'amitié intime avec Jésus, le laisser être le maître de notre vie. Vous voyez, le premier fondement de notre attitude séculier consacrée, c'est d'être des hommes et des femmes vivifiés en permanence par cette vie théologale, d'être reliés à la source. Je ne sais plus qui a utilisé le mot source, peut-être le Père Jean-François ou quelqu'un d'autre dans un témoignage. Oui. Être relié en permanence à la source qu'est le Christ, uni au Père et à l'Esprit Saint. Et puis, Primo Felicitaire, tout à l'heure, nous appelle aussi à une courageuse abnégation, un généreux oubli de soi-même. Cette vie d'union à Dieu, cette vie théologale, nous conduit immanquablement à un don de nous-mêmes toujours plus grand, au Christ, à l'Église, au monde. Paul VI, en 72, disait... Votre vie est féconde pour le monde, non tant par les œuvres extérieures, bien sûr, il faut le faire, c'est notre mission, mais non tant par les œuvres extérieures que par l'amour du Christ qui vous a poussé au don total dont vous témoignez dans les conditions ordinaires de la vie. Les œuvres extérieures habitées par l'amour du Christ. Alors chronologiquement, dans notre vie de baptisé, la vie théologale, les vertus théologales sont les premières composantes de cet esprit intérieur qui nous anime. Une vie qui a commencé avec notre âge de raison. Vous voyez, on faisait un petit baiser à Jésus en passant devant une image. Voilà, c'était déjà notre vie théologale en action. Mais l'exercice de cette vie théologale et l'union intime avec Dieu qui en résulte nous a progressivement, par des chemins personnels extrêmement variés, on a vu trois témoignages, mais dans les carrefours, vous avez pu en découvrir autant qu'il y a de personnes ici, nous a conduit à un don de nous-mêmes de plus en plus grand. Nous a conduit à percevoir un appel intime, un appel délicat, mais radical, à le suivre, lui, Jésus, dans la profession des conseils évangéliques. Et ces conseils évangéliques, eh bien, ça constitue cette deuxième grande réalité qui sous-tend en permanence notre attitude. Et je reprends Jean-Paul II en 80, et c'est à nous qu'il parle. Vous devez être avant tout de vrais disciples du Christ, en tant que membres d'un institut séculier. Vous voulez être tel par le radicalisme de votre engagement à suivre les conseils évangéliques. Alors là, il faudrait avoir l'accent de Jean-Paul II pour lui dire « Rendez-vous bien compte de ce que cela signifie. » La consécration spéciale qui conduit à sa plénitude, la consécration du baptême et de la confirmation, doit imprégner toute votre vie, toutes vos activités quotidiennes, en créant en vous une disponibilité totale à la volonté du Père, qui vous a placé dans le monde et pour le monde. Cet apostolat dans le don, c'est Pierre Langeron qui écrit ça dans son livre, est la plus parfaite imitation de Jésus, dont la vie sur terre a été caractérisée par un amour du Père sans partage, n'ayant d'autre richesse que lui, ni d'autre désir que faire sa volonté. Depuis des siècles, la tradition de l'Église récapitule ces trois caractéristiques de l'imitation de Jésus. Le Fils de Dieu a été chaste, pauvre et obéissant. Tout chrétien est invité à emprunter cette triple voie que l'Évangile conseille pour suivre Jésus, à sequela Christi. La vie consacrée exige de pratiquer radicalement ces trois conseils évangéliques. Et dans Vita Consecrata, au numéro 10, qui parle des instituts séculiers, il est dit « L'Esprit Saint, admirable artisan de la variété des charismes, a suscité en notre temps de nouvelles expressions de la vie consacrée. Cela paraît répondre, selon un dessein providentiel, aux besoins nouveaux que rencontre aujourd'hui l'Église pour accomplir sa mission dans le monde. On pense d'abord aux instituts séculiers dont les membres entendent vivre la consécration à Dieu par la profession des conseils évangéliques dans le cadre des structures temporelles. Et pourquoi ? Pour être levain de la sagesse et témoin de la grâce à l'intérieur de la vie culturelle, économique et politique. » Maintenant, Benoît XVI, je passe un peu d'un texte à l'autre, mais bon. Chaque rencontre avec le Christ exige un profond changement de mentalité. Mais pour certains, comme cela a été le cas pour vous, la requête du Seigneur est particulièrement exigeante. Dieu est tout et sera tout dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement d'une façon différente de vous référer au Christ et d'exprimer votre adhésion à lui, mais d'un choix de Dieu qui, de manière stable, exige votre confiance absolument totale en lui. Conformez sa propre vie à celle du Christ en entrant dans ses paroles. Conformez sa propre vie à celle du Christ à travers la pratique des conseils évangéliques est une caractéristique fondamentale et exigeante qui, dans sa spécificité, requiert des engagements et des gestes concrets d'alpinistes spirituels. Et il fait référence à cette parole de Paul VI qui nous comparait à des alpinistes spirituels. Ça veut dire qu'on marche sur un chemin de crête. Il y a la pente de la consécration et la pente de la vie dans le monde. Et nous marchons sur cette crête qui consiste à tenir les deux en équilibre en permanence. C'est une image pour exprimer la synthèse. Et cet équilibre de ce chemin de crête nécessite un discernement permanent. Et de temps en temps, on va aller un petit peu sur la pente de droite, et de temps en temps un peu sur la pente de gauche. Mais on va discerner pour toujours rester sur ce chemin de crête. Les conseils évangéliques ont une orientation essentiellement positive. Souvent, quand on parle avec les gens, ils voient les conseils évangéliques comme beaucoup de sacrifices à faire. Et en fait, ces conseils évangéliques sont essentiellement positifs. L'obéissance est la meilleure preuve de notre amour pour Dieu. Le Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance est aussi un moyen de nous unir à Dieu. Et là, je fais un peu référence au Père Marie-Eugène encore une fois, mais bon, on peut donner ce qu'on a reçu. Voilà. Il nous dit qu'il y a trois moyens d'être unis à Dieu. Il y a l'Eucharistie, le plus grand, le plus beau. Je suis uni à la personne, à l'humanité, à la divinité du Christ dans mon âme et dans mon corps. Mais ça, c'est une fois par jour. au mieux. Après, il y a la prière. Ça, c'est plus souvent par la foi. Je suis uni à Dieu par la vertu de foi qui a touché Dieu. Mais ça, à moins que vous soyez déjà dans une grande sainteté, si ce n'est pas le cas et que vous êtes comme moi, ma prière n'est pas complètement continuelle. Donc c'est à certains moments de la journée. Mais l'obéissance, c'est peut-être un peu plus diffus, mais c'est continuel. Quand je vis dans l'obéissance au discernement de ma vocation, de ma mission, eh bien que je passe le balai, ou que je prenne des décisions pour une entreprise, ou que je sois professeur devant mes élèves, quelle que soit ma situation, même si j'y pense pas, je suis en situation d'union à Dieu par l'obéissance. Vous voyez ces trois moyens. Du plus intense au plus diffus, mais le plus diffus est le plus permanent. Ça, c'est formidable de savoir que lorsque je suis là à mon boulot, ou là dans ma situation, ou là dans ma maison de retraite, peu importe, je suis en situation d'union à Dieu. Et puis aussi, cette obéissance, chacune a sans doute pu le constater, c'est le moyen de trouver, de réaliser ma mission. L'obéissance au discernement, à l'appel de Dieu, à ce chemin que Dieu m'a dessiné, j'aurais pu aller faire autre chose, aller prendre un autre chemin. La pauvreté, qui est la véritable richesse, qui me permet d'accueillir le royaume de Dieu et de le faire connaître. La découverte de plus en plus grande de ma pauvreté intérieure, de ma pauvreté radicale de pauvre être pécheur. Elle m'ouvre d'une part à la miséricorde de Dieu, mais elle m'ouvre aussi à mon prochain, quel que soit mon boulot. Elle me rend proche des blessures des hommes, elle me rend compatissant. C'est l'expérience de ma pauvreté vécue qui me rend miséricordieux comme le Père. Et la chasteté, tellement positive elle aussi. On dit la chasteté, quel sacrifice, oui certes, mais quelle merveille. La chasteté, c'est comme le vitrail qui laisse passer la lumière de Dieu. Marie, parfaitement chaste, laisse intégralement passer la lumière divine. La chasteté, c'est ce qui nous donne accès à la lumière de Dieu, c'est ce qui facilite notre intimité avec Dieu dans la prière. C'est ce qui nous permet de participer à la fécondité divine. Vous voyez, les conseils évangéliques ont une valeur extrêmement positive pour chacun de nous. Et Paul VI, encore lui, en 72, il va nous dire aussi que c'est autre chose. C'est qu'elles ont une valeur extrêmement positive pour les autres. Dans un monde replié sur lui-même et livré d'une manière incontrôlée à ses instincts, la chasteté, toute tendue vers les réalités célestes, apparaît comme un exercice vivant de domination de soi et de vie dans l'esprit. La pauvreté devient le modèle de la relation qu'on doit avoir avec les biens créés, de leur usage correct dans une attitude valable. L'obéissance devient un témoignage de l'humble acceptation de la médiation de l'Église et d'une manière plus générale de la sagesse de Dieu qui gouverne le monde à travers les causes secondes. Et Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, alors pas seulement pour les instituts séculiers, mais d'une façon très générale, va développer cet aspect en disant que, à travers les conseils évangéliques, il y a un véritable témoignage face aux grands défis du monde d'aujourd'hui. La mission prophétique de la vie consacrée répond à trois défis principaux adressés à l'Église elle-même. Ce sont des défis de toujours qui sont des formes nouvelles et peut-être plus radicales, sont lancés par la société contemporaine. Ainsi, tandis qu'ils cherchent à acquérir la sainteté pour eux-mêmes, ceux qui suivent les conseils évangéliques proposent pour ainsi dire, c'est la suite, une thérapie spirituelle pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Mais c'est merveilleux. En tant que consacré, simplement par le fait qu'on est consacré, on propose une thérapie spirituelle pour l'humanité. Eh bien oui, parce que l'humanité, elle connaît toutes les bonnes inclinations qui sont en nous et qui ont été blessées par le péché. La sexualité, le désir de posséder et le désir de décider de sa vie de manière indépendante. Cette bonne inclination de la sexualité, bien dans notre société, la provocation qui est liée à elle, c'est cette culture hédoniste. Une sexualité réduite à un jeu, à un bien de consommation, qui devient même une idolâtrie avec la complicité des moyens de communication. Et la conséquence, eh bien, c'est d'innombrables souffrances psychiques et morales. On n'a pas besoin d'aller très loin pour les constater autour de nous. Quelle est la réponse de la vie consacrée, dit Vita Consecrata ? La pratique joyeuse de la chasteté parfaite. La chasteté est associée à la joie. Le témoignage de la puissance de l'amour de Dieu dans la fragilité de la condition humaine, le témoignage d'une expérience de joie et de liberté, le témoignage de transparence dans les rapports humains. Et je suis sûr que chacun, chacune a fait cette expérience-là dans son milieu de vie. Vous voyez là, par notre consécration, une transparence, une simplicité, une limpidité des rapports humains. L'inclination bonne du désir de posséder est confrontée à un matérialisme avide de possession, avec ses conséquences, une indifférence aux besoins, aux souffrances des plus faibles. Également, l'absence de toute considération pour l'équilibre des ressources naturelles. La réponse de la pauvreté évangélique, un engagement actif dans la promotion de la solidarité, de la charité. Le témoignage que Dieu est la véritable richesse qui seule peut combler le cœur humain. Le témoignage d'une vie fraternelle, vécue avec simplicité et hospitalité. Vous voyez ici, la fraternité, la vie fraternelle est liée à l'esprit de pauvreté. Témoignage de l'amour préférentiel pour les pauvres. Ça va dans le même sens. Et puis, ce désir de décider de sa vie de manière indépendante. On entend tellement souvent, et on voit dans tous les coins de rue, comment être plus soi-même, mieux soi-même, bien développer son corps, être beau, bien, etc., etc. Les provocations de notre société, des conceptions erronées de la vraie liberté. La liberté qui est soustraite, dit Vita Consecrata, à son rapport avec la vérité. Les conséquences, des graves injustices, de terribles violences dans la vie des personnes et des peuples. Quelle est la réponse de l'obéissance à l'image de l'obéissance du Christ ? Bien, le témoignage qu'il n'y a pas contradiction entre obéissance et liberté. Là, il y a un sacré challenge dans notre société. Montrer qu'il n'y a pas de conflit entre obéissance et liberté. L'obéissance, une voie de conquête progressive de la vraie liberté. Et l'obéissance comme témoignage du respect de la personne humaine. Bon, vous pourrez retrouver tout ça dans Vita Consecrata, hein, c'est numéro 88 à 91. Voyez la puissance des vertus théologales qui nous unit au Christ, qui nous plonge dans la Trinité Sainte et qui en même temps nous ouvre au prochain. Le prophétisme des conseils évangéliques qui nous entraîne à la suite du Christ en imitant sa forme de vie et qui sont en même temps cette thérapie spirituelle pour l'humanité, ce témoignage prophétique. Et enfin, les béatitudes qui sont l'atmosphère dans laquelle nous vivons et agissons. Les béatitudes sont le parfum de l'Évangile, ce parfum que nous voulons répandre autour de nous, un parfum attirant et conquérant. Je lis encore Vita Consecrata au numéro 10, au sujet des instituts séculiers. Par la synthèse de la vie séculière et de la consécration qui leur est propre, ils, les membres d'instituts séculiers, entendent introduire dans la société les énergies nouvelles du règne du Christ en cherchant à transfigurer le monde de l'intérieur par la force des béatitudes. C'est vraiment le troisième élément de cette vie intérieure, de ce dynamisme intérieur qui nous habite. De cette façon, tandis que leur totale appartenance à Dieu les consacre pleinement à son service, leur activité dans les conditions laïques ordinaires aide, sous l'action de l'Esprit, a donné une âme évangélique aux réalités séculières. Dans ce texte, que je trouve très beau, on voit que la force des béatitudes, que nous sommes appelés à vivre comme membres d'instituts séculiers, nous permet d'introduire dans la société les énergies nouvelles du règne du Christ, nous permet de transfigurer le monde de l'intérieur, et nous permet de donner une âme évangélique aux réalités séculières. Et là aussi, ça traverse absolument toutes nos situations, toutes nos insertions, toutes nos vocations. La force des béatitudes, il y a bien sûr celle énoncée en saint Matthieu, qu'on connaît par cœur. Heureux les cœurs, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. ou heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, et d'autres qui nous renvoient à ce conseil évangélique de pauvreté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, qui nous renvoie à ce conseil évangélique de chasteté. Et puis des autres qui nous renvoient à la vertu théologale de charité. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, etc. Mais aussi toutes les autres béatitudes qui sont disséminées dans les quatre évangiles et qui sont tout aussi merveilleuses. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, en Luc 11. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, en Jean 20, et qui nous renvoient à ce que j'ai dit au début sur la foi. Heureux l'intendant fidèle et avisé, on s'y retrouve bien là aussi. Bon, c'est en Luc 12, qui nous renvoie peut-être à la dimension de l'obéissance. Et puis, en Jean 13, le lavement des pieds. À la fin du lavement des pieds, Jésus qui dit à ses disciples, « Sachant cela, voilà, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si je l'ai fait, ben, faites-le. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Et comme ça nous renvoie à la charité, au service, à toutes les situations que nous vivons. Chacune de ces béatitudes nous renvoie à des situations concrètes de notre vie séculière. Et nous désirons les vivre. Et en les vivant, tout simplement, nous en rayonnons, comme le radiateur, sans même y penser. Et les béatitudes exercent une force attractive. Comment ça se fait que les belles figures dans notre société de saints, on pense à un Jean Vanier, on pense à et quantité d'autres, comment ça se fait que ces gens-là touchent les non-croyants par leur être, oui. pas spécialement parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils font. Eh bien, c'est parce qu'ils vivent réellement, ils respirent la force des béatitudes. Les béatitudes, elles séduisent, en fait. Et pourquoi? Et là, on trouve la réponse dans le catéchisme, au numéro 1718. Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Et tous nos contemporains aspirent au bonheur. Et sans le comprendre, sans le savoir, ils se disent, mais chez lui, chez elle, qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? Ah ben, il est chaste, il est pauvre, il est obéissant, il vit dans la foi, l'espérance et la charité. Et le catéchisme, dans le numéro suivant, 1719, les béatitudes découvrent le but de l'existence humaine, la fin ultime des actes humains. Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Les hommes et les femmes de notre temps sont touchés par le témoignage de ceux et celles qui vivent dans l'esprit des béatitudes, d'une façon simple, naturelle, authentique. Et au-delà des béatitudes, c'est toutes les vertus humaines qui sont touchés parce que toutes les vertus humaines, la justice, la paix, etc., s'enracinent aussi dans les béatitudes. Et c'est Benoît XVI qui nous le dit aux membres des instituts séculiers en 2007. Le chemin de votre sanctification est ainsi tracé avec clarté. Adhésion oblative au dessein salvifique manifesté par la parole révélée, la solidarité avec l'histoire, la recherche de la volonté du Seigneur inscrite dans les événements humains gouvernés par sa providence. Et dans le même temps, se déterminent les caractères de la mission séculière. Le témoignage des vertus humaines, telles que la justice, la paix, la joie. La conduite excellente dont parle Saint-Pierre dans sa première lettre, faisant écho aux paroles du Maître. De même que brille votre lumière devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et encore, sentez-vous interpellé par chaque douleur, par chaque injustice, ainsi que par chaque recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté. C'est pas simplement les béatitudes ou les vertus humaines qui nous habitent, mais de discerner, de déceler, de valoriser, de relever, de découvrir toutes celles qui sont déjà vécues, présentes dans le cœur et dans la vie de ceux que l'on côtoie. Chaque recherche de la vérité, de la beauté, de la bonté. Non parce que vous possédez les solutions de tous les problèmes, mais parce que chaque circonstance dans laquelle l'homme vit et meurt constitue pour vous l'occasion de témoigner de l'œuvre salvifique de Dieu. Telle est votre mission. Et Benoît XVI, alors ce n'est pas aux instituts séculiers, c'est dans Jésus de Nazareth, dans son livre, à la page 91. Les béatitudes constituent, de manière voilée, une biographie intérieure de Jésus. Je trouve ça, c'est très beau. Les béatitudes, c'est une biographie intérieure de Jésus. Quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Un portrait de sa personne. Et finalement, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui fonde notre attitude de séculier consacré au cœur du monde ? Ben, il faudrait qu'on puisse dire de chaque membre d'institut séculier que les béatitudes sont en quelque sorte le portrait intérieur de sa personne. Alors, moi, j'y suis loin de ça. Hein, mais... Et puis, les béatitudes font aussi de nous des êtres de communion. Cardinal Parolin, pour vous, accompagner l'humanité en chemin est une réalité théologique. On vient au point de départ. La recherche du dialogue, de la rencontre, en constitue une part essentielle qui vous demande de devenir des hommes et des femmes de communion dans le monde. Alors, j'ai conclu. Vous voyez, la sécularité est une réalité théologique, non seulement en raison de ce que le monde est en lui-même, ce que Nadège nous a développé ce matin, mais ou parce que nous faisons dans le monde, par nos différents métiers, nos insertions professionnelles, sociales, ecclésiales, mais aussi par l'attitude qui nous habite dans ce monde. Et cette attitude, finalement, vous l'avez compris, c'est tout simple. Son fondement, c'est d'abord la grâce de notre baptême, à travers les vertus théologales, la vie théologale, notre consécration fondamentale, notre trésor essentiel qu'on est appelé à découvrir de plus en plus, à vivre, cette grâce du baptême qui va ne pas cesser de s'épanouir pendant toute notre existence. Et puis cette grâce non moins précieuse de notre consécration. Et c'est à ça que nous renvoient les conseils évangéliques. Et quant aux béatitudes, elles indiquent le chemin de sainteté que nous souhaitons emprunter. Cette sainteté qui nous identifie au Christ, au Verbe incarné qui nous précède dans le monde. Alors saint Paul, il compare le Christ total, l'Église, au corps humain composé de plusieurs membres et organes. Et chacun a sa place et sa fonction dans l'ensemble des organes, dans l'ensemble du corps. Alors quel est l'organe qui correspond aux instituts séculiers ? Les pieds ?
Pourquoi pas ?
Les mains ? Le cœur, le sang. C'est le père Majeul encore, je suis désolé, qui dit ça. Vous devez être comme le sang. Le sang, il passe dans le cœur. Le cœur, au sens s'intéresse de l'enfant Jésus, dans les cœurs de l'Église, je serai l'amour, c'est l'amour de Dieu. Le sang, il passe dans le cœur, où il va prendre l'oxygène, il va s'oxygéner. Mais où est-ce qu'il va, le sang ?
Dans les organes, partout.
Dans les grosses artères, et après dans les petites artères, et après dans les petits capillaires, et jusqu'à la plus petite cellule la plus éloignée du cœur. Bien sûr, c'est indissociable, l'Esprit-Saint. L'amour de Dieu, c'est l'Esprit-Saint. Et donc, nous allons puiser au cœur de Dieu l'amour de Dieu, qui est l'Esprit-Saint, pour l'amener jusqu'à la plus petite cellule la plus éloignée du cœur. Les membres d'un institut séculier sont le sang dans le corps du Christ. C'est une image, hein, à ses limites aussi. Alors je termine par une avant-dernière citation de cardinal Parolin. Quelle image nous renvoie l'humanité que nous avons devant nous ? Des gens qui ont perdu la foi ou qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Des jeunes sans idéal, qui n'ont plus le sens des valeurs. Des familles déchirées, des chômeurs, des personnes âgées seules, des immigrés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, je vous soulagerai. En disant cela, Jésus nous indique le chemin. Que de visages croisés dans la rue en vous rendant au travail ou en faisant des courses. Que d'occasions vous avez de soulager, de donner de l'espérance, d'apporter la consolation. Voilà le chemin. Appelé par le Seigneur à le suivre dans le monde, portez l'amour dans le monde en l'aimant, lui d'abord, de tout votre cœur. Et en aimant chaque frère d'un cœur paternel et maternel. Alors, puisons l'amour au cœur du Christ. Et comme on ne peut donner que ce qu'on a reçu, eh bien, je termine avec... C'est le cardinal Sodano. Alors, j'ai trouvé cette parole aussi qui m'a plu. En 92, aux instituts séculiers, il parle de la part de Jean-Paul II. L'expérience de la recherche et de la rencontre personnelle avec le Dieu vivant est ce que nous avons de plus précieux à offrir aux hommes. Malheureusement, Marilyn nous rappelle qu'il est prévu.
Éventuellement
des réactions ou des questions.
Oui. Est-ce que tu pourrais t'en occuper ?
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Allez, ils ont un panier pour manger.
Parce qu'ils sont malvoyants ? C'est quoi le problème ?
C'est parce qu'ils ne connaissent pas.
Je crois qu'il y a un peu de saturation.
Et son épouse et son fils, ils iront manger.
Ouais, on peut peut-être prendre 10 minutes sur place pour souffler, puis avant de laisser la place, la parole à Monseigneur
Lambert.
Oui, d'accord.
Et demander un plateau avec une collation pour Lambert après qu'il est dansé.
Prenez 10 minutes.
Oui, d'accord.
Ce qu'ils mangent.
Oui, c'est pour que ces personnes-là ne soient pas
voilà.
Comme des personnes étrangères.
Voilà.
Voilà, d'accord. Les accueillir et les accompagner dans la rue. Non, parce que je me demandais quelle est la difficulté. Quelle est la difficulté.